Alors, notre troisième partie de ce 22e Radio Barque prévoit donc en invité Didier Mouly, qu'on a un petit peu entendu tout à l'heure. Mais alors maintenant, Didier Mouly, en tant que maire de Narbonne, et après ce qui vient d'être dit, comment voyez-vous l'avenir de cette aréna et cette fameuse illégalité du marché réalisation-conception?
J'espère que je ne choquerai pas Michel en disant que ce marché est un marché qui est légal dans sa réalisation. C'est simplement son choix qui n'apparaît pas judicieux. Toujours est-il que le chantier a démarré, les locations sont ouvertes pour les spectacles. Il serait navrant aujourd'hui que l'on garde, et Michel l'a déjà écrit dans une de ses chroniques, que l'on garde cette verrue en plein milieu de l'entrée est de la ville et que les Narbonnais, qui sur les réseaux sociaux sont très heureux de la réalisation et de la programmation, se retrouvent sans cette possibilité d'aller voir du sport ou voir des spectacles. La décision du tribunal administratif sera une décision qui va marquer l'avenir de cette entrée est et va marquer l'avenir de cette aréna telle qu'elle est en train de se réaliser. J'espère que cette décision, elle ira dans le bon sens, en disant que peut-être que le marché n'a pas été celui qu'il fallait choisir dans ce cas-là, sachant que personne ne l'a contesté à part un élu
d'opposition. C'est ce qui a été souligné, là. Donc, oui.
Exactement. Mais qu'en même temps, le chantier pourrait aller jusqu'à son terme au regard de l'argent qui est déjà investi et de ce que cela coûterait à la ville au regard de la capacité financière de la ville.
Et au pire, en cas donc de jugement négatif, est-ce qu'il y a encore un recours à ce recours?
Oui, il y a toujours un appel possible à la décision. Par contre, je pense que la meilleure des solutions, c'est s'il y avait un arrêt immédiat de ce chantier, de repartir sur un marché dans les meilleurs délais pour qu'on fasse la continuation.
Relancer la machine. Et profiter du travail qui est acquis, puisqu'encore une fois, la construction, déjà, elle est à moitié faite, pratiquement.
Ah, non, c'est la seule solution, effectivement. Il a raison, monsieur le maire. Donc, le tribunal suit, il est obligé de refaire un nouveau marché pour être conforme, effectivement, au droit pour la suite des travaux. C'est clair.
Ouais. Et alors, cette grande salle, en partant du principe qu'elle va fonctionner, que tout va se dérouler, enfin, sinon, pour le mieux en tout cas, bien. Il a déjà été évoqué plusieurs fois. Alors c'est une réalisation de la ville à ce jour. Il a déjà été évoqué entre les lignes et plus qu'entre les lignes à l'agglomération, par exemple, qu'il faudrait, lorsqu'elle existe, qu'elle fût gérée non plus par la ville de Narbonne, mais par l'agglomération du Grand Narbonne. Qu'en pense le maire de la ville ?
Peut-être pas par une collectivité seule, mais par un partage entre les collectivités. Et je pense que la réponse positive que Jacques Bascou a donnée à l'interrogation sur une mutualisation de la gestion semble une ouverture possible. Aujourd'hui, le parc des expos est géré à travers une délégation de services publics et la salle sera gérée par une délégation de services publics. Demain, les deux établissements pourront être gérés par une seule et même structure, délégation de services publics, de manière à coordonner leur programmation et à compléter leur programmation. Et qui peut-être verra dans un troisième temps le théâtre arriver dans cette structure commune où les deux collectivités, l'agglo d'un côté et la ville de l'autre, pourront mettre en commun la gestion de ces trois établissements qui sont proches et qui ont une même destination, accueillir du public et lui apporter un loisir, un sport, quelque chose qui lui permettra d'apprécier la qualité de vivre.
C'est-à-dire une DSP qui gérerait ces trois établissements.
Alors, je ne sais pas si juridiquement, peut-être que Michel m'apportera son concours, on peut avoir plusieurs DSP qui se regroupent en une seule avec une mutualisation des moyens, puisque c'est le fonctionnement qui coûte le plus cher.
Voilà. Oui, Michel, un mot là-dessus.
La réponse, c'est pas possible. Il faut refaire une délégation de service pour effectivement l'ensemble. Mais je note que ce schéma, en fait, a été celui qui a été mis en place à l'époque par Georges Frêche, en fait, pour l'Arena, le Zénith, le Quorum et le Parc.
Oui, et on revient dessus.
Le maire de Montpellier dit, moi, pas question, en fait, le Parc des Expos, en fait, et l'Arena sont ultra déficitaires, donc j'en veux plus. Donc la région aujourd'hui est en train de reprendre ses billes, en fait, hein, si je puis dire, totalement négative, parce qu'effectivement, ça ne marche pas.
Oui, hein. Donc,
le théâtre et le Parc des Expos sont ultra déficitaires aussi.
Oui,
mais subventions que l'on donne.
De toute façon, et on sait que tout ce qui est culturel le l'est par essence.
Oui, hein. De toute façon, ces deux équipements, le parc des expos et la salle multimodale, l'aréna, sont structurellement déficitaires et on crée une seule délégation de services publics pour gérer effectivement un montant de visiteurs commun, puis dire.
Bon, en fait,
ce qui change pas grand-chose, effectivement, sauf pour la partie des services horizontaux, hein, personnel, et comptabilité, etc.
Alors, un autre chantier différent quand même, mais revenons, Didier Mouly, sur le pont de Carcassonne. En fait, c'est sur le pont de la route de Carcassonne qui passe au-dessus de la voie ferrée, dont on sait qu'il a été fermé longtemps, qu'il est devenu compétence de la ville, l'État l'a rétrocédé, c'est bien ça aujourd'hui, et il semblerait que certains attendaient que des travaux soient faits de façon imminente. Or, il semble que les choses soient phasées beaucoup de manière beaucoup plus lointaine. En tout cas, où en est-on aujourd'hui sur l'avenir de ce pont de Carcassonne ?
Le pont de Carcassonne a été fragilisé par le temps et l'absence d'entretien. Il était un pont d'État et il est passé un pont communal dans le cadre de la rétrocession de la 113 à la ville. L'État a fait budgéter le montant de l'ensemble des travaux et il a donné à la ville une enveloppe de 9 millions d'euros. Sur ces 9 millions d'euros, trois parties. La première, sécuriser le pont, ce qui a été réalisé, ce qui a permis la réouverture,
du pont.
Interdit aux véhicules de plus de 3,5 tonnes. La deuxième partie, ça va être les travaux de la SNCF. Ce sont ceux les plus coûteux. Il va falloir enlever du pont tous les câbles qui permettent au train de passer. Ce qui fera la troisième tranche des travaux, c'est-à-dire on mettra le pont au-dessus de ses ergots actuels, on le réhabilitera intégralement et on le reposera pour que la SNCF finisse les travaux de remise en état de ses câbles. Les travaux ne peuvent se faire qu'en accord parfait avec la SNCF et la SNCF doit trouver des fenêtres permettant la réalisation de ces travaux au regard du trafic qu'il y a, puisque c'est un trafic international, ce n'est pas que la SNCF, ce sont tous trains venant de l'Europe entière qui passent,
et
allemands allemand qui passent. Donc, les fenêtres ont été déterminées par la SNCF en 2022. C'est à cheval juste fin 2021 et 2022. C'est indépendant totalement de la ville, mais les services communs de l'État, puisque c'est les services de l'État qui avaient préparé le financement et qui restent au milieu de l'ensemble de ces comités techniques, les services techniques de la SNCF et ceux de la ville travaillent pour finaliser l'ensemble des travaux, la coordination des travaux et l'espace de fermeture.
Donc,
les travaux devraient durer grosso modo un an en 2022.
À partir de 2022. Voilà aujourd'hui le calendrier qui est établi. Bon, donc il faut le savoir et ne pas prétendre des choses différentes puisque, vous l'avez expliqué, monsieur le maire, c'est la SNCF en fait qui décide dans ce cas-là.
Et en parallèle avec l'agglomération, on travaille sur l'aménagement parallèle au pont, extérieur au pont, tout l'accès au pont, la réfection de l'avenue, le déplacement d'eau, les différentes tuyaux permettant les transmissions de tous les fluides. Et ce n'est pas dans le budget que l'État a attribué, c'est une amélioration que l'on souhaite, notamment l'accessibilité à tous de ce pont, que l'on souhaite avec l'agglomération, les voies cyclables, les espaces piétons plus larges, la sécurité sur avant l'entrée.
Voilà. Un autre chantier qui, lui, est terminé et fonctionne, c'était l'ouverture de la maison prévention santé. Alors, de plus en plus, les mairies s'intéressent directement à la santé, sous forme pour les communes, de maisons médicales, par exemple. Là, vous vous êtes intéressé à un créneau qui est avant le pépin de santé, en quelque sorte, qui est la prévention santé. Expliquez en quelques mots les services rendus à la population.
Dans le cadre de la santé, Michel y faisait allusion tout à l'heure, par l'accueil des nouveaux arrivants, il faut travailler sur une amélioration de la santé qui est très coûteuse et qui est très dévalorisante. Aujourd'hui, on a un service qui travaille sur sport sur ordonnance et après, on a beaucoup d'associations qui, en accord avec les organismes sociaux, travaillent sur cette fameuse prévention, que ce soit l'addiction à l'alcool, à la drogue, l'obésité, le diabète. Et il fallait regrouper en un seul et même lieu l'ensemble de ces acteurs pour qu'ils puissent travailler ensemble sur la même personne. Ils ne vont pas se substituer à la médecine, j'insiste beaucoup. Ils vont simplement rappeler à chacun des intervenants sur cette maison que il y a à se protéger, à faire attention et à agir sur sa santé pour vivre beaucoup plus longtemps. Et en cas de difficulté, l'alerte, c'est aller voir le médecin et les médecins vous apporteront leurs conseils. C'est vraiment de la prévention et notamment insister sur tout ce qui est comment se comporter, comment aborder sa vie de tous les jours en faisant du sport, en mangeant mieux, en faisant attention à certains produits, etc.
Oui, l'idée c'est qu'on vous donne l'adresse du médecin, mais on vous explique comment vous en passer le mieux possible.
Beaucoup dit moi, hein, cette formule qui est très jolie.
C'est un petit peu ça. Et alors, sous quelle forme ça va se tenir? Sous forme de consultation, de conférences, de...
C'est beaucoup plus de conférences et d'événements, puisqu'il y a par exemple une...
Des opérations événementielles ou...
Événementielles avec les mutuelles qui vont intervenir, l'assurance maladie qui sera présente, et les différentes associations qui existent déjà et qui viennent en parallèle. Il y a par exemple dans cette maison de la prévention, une cuisine pour apprendre à certaines personnes comment cuisiner pour mieux manger et ne pas, par exemple, avoir d'obésité.
On va enseigner la diététique d'une certaine façon.
C'est une forme d'enseignement diététique.
Oui, d'accord. Oui. Donc ça, c'est vraiment de la prévention qui va assez loin, quoi, puisque la nourriture, peut-être la première des préventions.
Exactement.
Alors, restons dans les chantiers ou dans les prévisions. Il y en a un qui a fait polémique il n'y a pas très longtemps, c'est le crématorium. Alors, on sait que chacun veut son crématorium. Est-ce qu'il y a du nouveau? Parce qu'on en, quand il y a une polémique, on en parle. Puis après, dans la presse, ça s'estompe un petit peu dans les médias. Où en êtes-vous aujourd'hui sur l'avancement, monsieur le maire, de votre crématorium, si je puis le baptiser ainsi?
C'est gentil de baptiser ainsi, ce ne sera pas le mien personnellement. La ville est propriétaire d'un ensemble immobilier situé chemin de Saint-Cressant, qu'elle destine à la réalisation d'un crématorium. Sur cet emplacement, une étude a été faite avec les services de l'État et effectivement on peut réaliser avec certaines obligations dans l'immobilier qui sera réalisé, on peut réaliser un crématorium. La ville l'a voté en conseil municipal et a choisi la forme de la délégation de services publics plutôt que de faire en régie, c'est-à-dire elle-même. Le conseil municipal a voté. Le lancement de la DSP a été fait. Les plis seront ouverts de tête, je le dis, le 15 mars.
Mais donc ça suit son cours.
Ça suit son cours tout à fait logiquement. Parallèlement, l'agglomération, après avoir retiré ses différentes délibérations, soit volontairement, soit parce que le contrôle de la légalité le lui demandait, a voté à l'avant-dernier conseil municipal la mise en place d'une étude sur... Est-ce que c'est toujours d'actualité ou pas de faire un crématorium ou pas? Une nouvelle étude va être faite.
Voilà. Mais là, la nouvelle étude doit porter sur le sujet suivant. Est-il utile de faire un deuxième crématorium? C'est la question que cette étude devra poser.
Bon, exactement.
Ce qui est encore un autre sujet. Monsieur le maire, vous... oui, pardon. Oui.
Est-ce qu'il y a une demande? Parce que l'augmentation de la demande va être significative pour justifier deux crématoriums. On peut imaginer la créer de manière tout à fait artificielle, cette demande-là. Mais je n'ose pas imaginer ça dans l'esprit des élus.
Soyons gentils. Alors, monsieur le maire, vous avez pris l'habitude depuis pas mal d'années de faire ce que vous appelez des rencontres citoyennes, où vous rencontrez les Narbonnais, vous les questionnez, vous les écoutez. Vous faites ça depuis un certain temps. On a l'impression que vous avez surfé sur la notion du débat qui est apparu récemment, mais ça n'est pas le cas. Mais est-ce que vous retrouvez dans ce qu'on vous dit, les propos qu'on vous tient, des choses qui vous rappellent un peu la notion de grand débat, c'est-à-dire on remet en cause un certain nombre de choses profondes, ou alors c'est simplement plus concret, on a besoin de ceci, de cela, d'une aide. Comment ça se passe?
Alors, les rencontres ont lieu tous les 15 jours. Cet après-midi, il y aura des rencontres citoyennes en mairie. Mais l'analyse de ces rencontres, ce n'est pas des choix de société, c'est des cas du quotidien.
Très concret, donc.
Le logement, l'emploi, le stationnement et la propreté. Le stationnement devant sa porte, dans sa rue, et la propreté, parce que effectivement, il semblerait que les rues ne soient pas assez nettoyées, entretenues et autres. Ce sont les sujets les plus fréquents. C'est surtout l'emploi et le logement.
Oui, ce que disait Michel tout à l'heure, seulement, bon, un maire ne peut pas grand chose en matière d'emploi,
exactement,
qu'il soit ici, ou comme on le disait, ou à Perpignan, ou à Béziers, ou à Carcassonne, ou dans d'autres villes.
À part d'accompagner sur des recommandations par rapport à des entreprises avec lesquelles la ville travaille, il n'y a pas de création même d'emploi de la part de maires, c'est simplement un accompagnement des personnes dans la difficulté à la recherche d'emploi.
Oui, oui. Alors, on sait que dans un an, il y aura des élections municipales. Certains vont dire, bon, le maire est déjà en campagne. Est-ce que vous sentez se profiler, par exemple, au niveau des conseils communautaires et des conseils municipaux également, une certaine tension, une certaine préparation? Comment gérez-vous cette situation, si je puis dire?
Je pense qu'on se doit, vis-à-vis des Narbonnais, de respecter le mandat qu'ils ont confié aux élus, c'est-à-dire 6 ans, et nous devons exercer notre mandat sur l'année encore à venir en complète réalité. À côté de ça, on voit effectivement que certains remuent autour de nous. Je pense que, comme moi, vous avez constaté que hier soir au conseil communautaire, il y avait la présence de Madame Nathalie Granier-Calvé, dont tout le monde parle comme tête de liste, ce qu'elle ne cache pas, puisqu'elle était accompagnée d'un assistant qui la suit actuellement dans tous les déplacements qu'elle effectue.
Ça fait partie des gens qui se positionnent.
Qui se positionnent. J'ai constaté que hier soir, Nicolas Sainte-Cluc n'avait pas manifesté quoi que ce soit comme observation particulière sur le vote du budget.
Exact.
C'est un peu surprenant, puisque sur la ville de Narbonne, il n'y avait pas grand-chose, ni sur les allocations qui étaient faites dans les entrées de ville ou de bourg et ou dans les... Ça avance pas, puisque la ville a 2 subventions de la part de l'agglomération. Ça bouge un petit peu. Certains ont crié à un moment donné pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec le projet qui avait été initialement mis en place. C'est... les moments comme ça, de période un petit peu instable pour certains, où ils pensent qu'ils seront meilleurs ailleurs. Pour l'instant, les élus doivent aller jusqu'au bout de leur mandat,
oui,
en respect
voilà.
Vis-à-vis de l'électeur.
Cela dit, vous avez depuis très longtemps affirmé clairement vos intentions. Vous vous représenterez sur une philosophie semblable, d'après ce qu'on a compris.
La même philosophie, les mêmes valeurs et les mêmes principes que ceux pour lesquels nous avons été élus, avec un programme qui se construit actuellement. Nouveau Narbonne, tous les 15 jours, travaille avec des groupes de travail sur qu'est-ce que la ville a besoin, qu'attendent les Narbonnais de leur ville, quel sera ce projet sur les années à venir.
Alors Didier Mouly, un mot quand même important sur la Narbonne romaine, entre guillemets. Le musée Narbo-Via, qui n'est pas de la compétence de la ville, qui dépend de la région, travaille quand même avec la ville dans la mesure où toutes les collections lapidaires qui y figureront sont celles à l'heure actuelle qui sont à l'église La Mourguée. Où en est pour vous, même si je le répète, ça n'est pas vous qui êtes le maître d'ouvrage, où en est l'avancement de ce musée? On a l'impression qu'il est un peu au point mort quand on se promène devant.
Effectivement, aujourd'hui, le bâti est entièrement réalisé. Il manque quelques aménagements intérieurs. Et surtout, la région travaille avec les différentes entreprises spécialisées sur la réfection, la réhabilitation de l'ensemble des collections. Tout le musée de l'église La Mourguée et les collections qui se trouvaient au palais des archevêques ont été récupérées par la région et sont actuellement avenue de Bordeaux dans un bâtiment stocké et remis en goût du jour, classé, ordonné pour être ensuite transféré au musée de la Romanité où ces pièces seront exposées.
Oui, donc pour le moment, vous suivez ça, mais relativement impuissant, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas en tant que spectateur.
En tant que spectateur sur la réhabilitation et la mise en valeur de l'ensemble des éléments de la collection, mais à côté de ça, l'ensemble des services travaillent, et les élus aussi, sur la mise en place de l'établissement public qui va gérer et faire vivre ce musée, en accord avec l'État, la région, l'agglomération et la ville, la mise à disposition par l'agglomération du musée Amphoralis et la mise à disposition par la ville de l'Oréum. Parallèlement, il y a aussi tout le fonctionnement de cet établissement public, comment va-t-il être partagé entre les différents intervenants et quel va être le but de ce musée, comment va-t-il vivre.
Oui, oui, un petit mot, Michel.
Oui, simplement le clos de la Lombarde. En fait.
Voilà, c'est définitivement parce que c'est une prolongation sûr, quasiment naturelle.
Naturelle, oui.
De tout temps et depuis le début de notre mandat, nous demandons à la région de prendre en considération le clos de la Lombarde. Ce qui a l'air de faire peur à la région, c'est la situation actuelle du clos de la Lombarde, qui nécessite de gros travaux de protection de l'ensemble des découvertes qui ont été faites. Le financement n'est pas actuellement prévu par la région. On l'avait mis dans le pot de la mariée en disant il faut y aussi y mettre le Clos de la Lombarde. Je pense que le projet Clos de la Lombarde n'est pas assez avancé dans une mise en valeur, que ce qui fait un petit peu un frein vis-à-vis de la région.
Oui, c'est pourtant plus de 40 années de fouilles, ce Clos de la
Lombarde. Oui, mais à l'air libre, sans aucune protection, si ce n'est mettre du sable pendant la période hivernale pour l'enlever pendant l'estival. C'est ça qui est difficile.
Un tout dernier mot pour conclure.
Cela dit quand même, monsieur le maire, disons 2 millions pour le protéger, faites rapidement. En fait, 2 millions rapportés à 60 millions d'euros d'investissement, qu'est-ce que c'est?
Je suis entièrement d'accord avec vous, mais je ne peux pas aller au-delà des volontés de la région.
L'argument, en fait, l'argument financier est totalement en fait irrationnel. On regarde
ici. Il y a eu l'argument juridique qui également ne tenait pas, puisque c'est un bien de l'État qui est donné en concession à la ville, et la ville était prête à travers ce bail de demander à la région de le prendre.
Mais on doit conclure sur le fait qu'on ne peut pas conclure en ce qui concerne ce Clos de la Lombarde. En tout cas, merci Didier Mouly, donc d'être venu comme vous le venez. Voilà, comme vous le venez régulièrement maintenant, faire le point sur l'avancement de la gestion de votre ville. Prochain invité, on restera dans les maires. On va en voir passer d'ailleurs pendant un certain temps. Henri Martin pour la nouvelle. Nous recevrons un petit peu plus tard. Alors Sébastien Plat pour le tourisme. Nous parlerons alors avec d'autres maires. Guissier est prévu également. La maire de Périac-de-Mer, Catherine Gouiri, est prévue également. Monsieur Bascou, ancien
président de l'agglomération.
Président de l'agglomération d'aujourd'hui.
Qui a sous sa coupe tous ses maires.
Voilà, reviendra également très prochainement. Voilà un certain nombre d'élus qui sont prévus, en tout cas, comme nous le faisons toutes les semaines. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.
À bientôt.